3A 246. Chronique de la maison de la mémoire.
Alors bonjour, aujourd'hui la chronique de la maison de la mémoire m'a été inspirée par Nadine de Rothschild et sera consacrée à celle que certains ont surnommée la diabolique de l'art. C'est le surnom qu'on a attribué à une Aveyronnaise de Paris qui s'appelait Juliette Lacaze, aussi connue sous le nom de Domenica Walter. C'est un vrai personnage de roman qui apparaît donc dans un des livres de Nadine de Rothschild intitulé « Megève, un roman d'amour ». Titre que même Barbara Cartland n'aurait pas renié, et qui dévoile déjà la facette romanesque et passionnée du personnage qui nous intéresse aujourd'hui. Mais c'est seulement la partie émergée de l'iceberg, et pas la plus sombre, loin de là. Si j'ai décidé de vous parler de Juliette Lacaze, c'est pas tellement par admiration pour l'œuvre rothschildienne, et j'espère que Madame Nadine ne m'en voudra pas, mais parce que, en l'espace de 3 mois, 2 personnes nous ont écrit à la Maison de la Mémoire pour obtenir des renseignements historiques qui la concernaient. La question, c'était de savoir, comme on dit chez nous, d'où elle était sortie. En effet, Madame de Rothschild, qui l'a connue puisqu'elle fréquentait le même milieu, dévoile un pan de la personnalité de Juliette Lacaze, on dira une certaine tendance à la déformation de la vérité, que certains essayent encore de démêler de nos jours. En effet, elle avait toujours affirmé être née à Millau, mais Madame de Rothschild pense que c'est Sainte-Afrique, et 10 ans plus tard que la prétendue vérité. Alors on a mené l'enquête, et comme souvent, il y avait une partie de vrai, une partie de faux. Juliette Lacaze ne mentait pas, elle est bien née à Millau, mais Nadine de Rothschild avait aussi raison, puisqu'elle est née 10 ans plus tôt que ce qu'elle prétendait. Peut-être une affaire de coquetterie féminine. Quoi qu'il en soit, ça nous a permis de découvrir un personnage qui a défrayé les chroniques mondaines et judiciaires dans les hebdomadaires nationaux dans les années 50. On va donc revenir un peu sur son destin. Juliette Lacaze, elle est donc née à Millau, comme on l'a dit, en 1898. Et d'après son acte de naissance, dans un milieu plutôt modeste, puisque son père est déclaré aspirant au notariat, donc certainement un clerc de notaire. Comme beaucoup d'Aveyronnais à cette époque, elle monte à Paris, vraisemblablement pour travailler, ou satisfaire ses ambitions, et peut-être les deux à la fois sans doute. Certains disent qu'elle y était vendeuse de gants dans une boutique, d'autres qu'elle tenait le vestiaire d'un nightclub. C'est possible qu'elle ait fait les deux aussi. Quoi qu'il en soit, elle rencontre un homme là-haut, qui s'appelle Paul Guillaume, et qui va devenir son mari en 1920. C'est lui qui lui donnera le surnom de Domenica. Et très attachée à ce surnom, en fait, elle le gardera toute sa vie. Donc Paul Guillaume, il était devenu presque par hasard marchand d'art. En effet, quand il était jeune, il était apprenti mécanicien dans un garage. Et par hasard, il est tombé sur des masques africains dans une cargaison de caoutchouc. Comme ils lui ont plu, il a décidé de les exposer dans la vitrine du garage. Et un jour, comme ça, Paul Valéry, qui passait par là, et qui était un grand amateur d'art africain, s'est intéressé à ces œuvres-là. Ils sont devenus amis. Et plus tard, Paul Valéry et Max Jacob seront les mentors en art moderne donc de ce Paul Guillaume. Comme il avait malgré tout un bon sens des affaires et un certain goût, un bon sens esthétique, il devient très vite un des plus importants marchands d'art. Pour des raisons de santé, il n'est pas mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, du coup ça lui laisse tout le temps de développer son activité. Et il arrive à se constituer une grande collection de peintures, parce qu'il était le mécène de tout jeunes peintres, comme Chiricot ou Derem, et qu'il achetait les tableaux de beaucoup d'autres, comme Picasso, Cézanne, Soutine ou Modigliani. Donc très vite, la qualité de sa collection, elle sera révélée. Parce qu'il avait une idée derrière la tête, c'était un jour d'ouvrir un musée qui portait son nom. C'est pour ça qu'il a toujours laissé sa collection ouverte au public, en fait. Du coup, sa femme, Juliette Lacaze, elle rentre dans le haut milieu mondain et artistique parisien. Beaucoup de peintres font son portrait. C'est le cas le plus connu, c'est celui de Derain, mais il y a aussi Marie Laurencin, par exemple. Mais elle jouit déjà d'une réputation de croqueuse d'hommes. Et en 1932, elle rencontre son nouvel amant, qui s'appelle Jacques Walter, un architecte richissime, qui deviendra plus tard son second mari. Mais pour l'instant, le premier, Marie, amoureux fou, n'y veut pas se séparer d'elle. Et il est sincèrement ami de la main de sa femme. Du coup, ils vivent tous les trois dans un hôtel particulier à Paris ensemble. Son mari est un homme passionné, certes, mais il est aussi prudent. Et du coup, il pose un ultimatum à son épouse, à savoir que s'ils n'ont pas d'enfants ensemble, il lègue toute sa collection à l'État. Mais arrive 1934, et il meurt, dans d'étranges circonstances. En effet, il a eu une appendicite qui s'est infectée, l'infection s'est généralisée. Mais ce qui a marqué les observateurs de l'époque, c'est le temps que son épouse a mis pour l'amener à l'hôpital. Pour autant, les choses suivent leur cours, elle n'est pas particulièrement inquiétée. Et c'est alors qu'elle met en œuvre son plan d'héritage. Et là, comme dans un film, elle simule une grossesse en se promenant dans les rues avec des coussins sur le ventre. Et au moment de l'accouchement, elle disparaît et puis elle revient avec un enfant qu'on apprendra plus tard, en fait, elle avait acheté. Et elle l'adoptera que bien des années plus tard, contrainte et forcée par son second mari. Mais pour l'instant, elle est veuve, donc célibataire. Elle est riche puisqu'elle a hérité de la fortune de son mari et de sa collection. Et elle peut se remarier avec son amant, donc celui dont on parlait tout à l'heure, Jacques Wolter. Le mariage est célébré en 1941. Lui avait acquis une grande fortune parce qu'il avait, grâce à l'exploitation d'une mine de plomb au Maroc, en 1957, il est renversé par une voiture, et là, sa femme et son nouvel amant, qui se trouvait être, comme par hasard, médecin, insistent pour l'amener eux-mêmes jusqu'à l'hôpital. Mais quand il arrive à l'hôpital, il est décédé. Donc du coup, Madame Lacaze se retrouve veuve pour la seconde fois, cette fois définitivement riche, puisqu'elle a hérité des deux fortunes, et du coup, elle commence à vendre certains tableaux, mais en acheter d'autres aussi pour compléter sa collection. Et c'est là qu'arrive la grande affaire, qui fait définitivement scandale. En 1959, elle est accusée de tentative d'assassinat sur son propre fils. Des droits d'héritage étaient en jeu, a priori. L'affaire défraie la chronique, mais elle n'est pas inculpée. On apprendra plus tard que dans cette période-là, en fait, elle avait négocié avec l'État, et entre autres avec André Malraux, pour faire don de toute sa collection. La seule chose qu'elle demandait, c'est de garder la possibilité de conserver les œuvres jusqu'à sa mort, qui survient en 1977. Il y avait quand même une seconde condition, c'était que la collection soit exposée dans un endroit où elle ne pourrait pas être mélangée à une autre collection. Du coup, la collection Guillaume Wolter, depuis 1984, elle est visible à Paris, au musée de l'Orangerie. Et un inventaire au moment de l'accord, là, donc dans les années 50, fait état de 146 tableaux, dont 24 Renoir, 12 Picasso, 15 Cézanne, 10 Matisse, 29 Derain, 22 Soutine, etc. Le destin assez particulier de cette femme a inspiré pas mal de gens. On l'a vu, Nadine de Rothschild. Mais dans un autre genre aussi, Arte, qui en 2010 lui a consacré un documentaire qui a été diffusé. Et si j'ai choisi de parler de cette femme, c'est parce que c'est un des exemples des petites aventures qui peuvent nous arriver à la Maison de la Mémoire, où parfois des recherches a priori anodines nous mettent sur la piste de destins peu communs. Et après tout, qui sait, même si ces destins-là ne sont pas représentatifs de notre région, à une époque, et dont l'exemplarité... Je la laisse juger à chacun. Malgré tout, qui sait, peut-être ils peuvent participer à la création d'une certaine culture régionale. Et peut-être qu'un jour, on les retrouvera dans les mythes et légendes de la région, qui, comme on le sait, ont toujours une part de vérité. Pour cela, il va falloir attendre quelques années, voire peut-être quelques siècles.
3A 246. Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain, Florian Boulet, Sophie Roumégous, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.